Chapitre 87, Psychologie et théologie. Fondée sur les Saintes Écritures, les vrais principes de la psychologie se trouvent dans les Saintes Écritures. L'homme n'a pas conscience de sa propre valeur. Il agit selon son caractère inconverti parce qu'il ne regarde pas à Jésus, l'auteur de la foi, celui qui l'amène à la perfection. Celui qui vient au Sauveur, qui croit en lui et le prend pour exemple comprend la signification de ses paroles, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais lorsqu'il se met aux pieds de Jésus, il peut voir, au travers de sa vie perverse et pécheresse, les terribles profondeurs de la dépravation dans lesquelles peut sombrer le cœur humain non converti. Il entrevoit le pur caractère de celui qui est sans péché, il a un aperçu de la perfection donnée au pécheur qui se repent et se convertit. Revêtu de la robe resplendissante du caractère de son Rédempteur, il s'assied avec le Christ dans les lieux célestes. Dieu, sa connaissance de l'esprit humain, la connaissance de Dieu est précise et infaillible. Il connaît le fonctionnement de l'esprit humain, les principes actifs des agents humains qu'il a formés, comment ils sont mis en œuvre par tout ce qui leur arrive, comment ils réagiront aux tentations auxquelles ils peuvent être soumis et dans toutes les circonstances où ils seront placés. Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui aplanit toutes ses routes. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. C'est lui qui regarde jusqu'aux extrémités de la terre. Il voit tout sous les cieux. L'Éternel sonde tous les cœurs et discerne toute intention. Il sait tout ce qui nous passe par l'esprit, sans exception. Il n'y a aucune créature, qui soit invisible devant lui, tout est nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Les hommes et les femmes se rendent-ils compte de la manière dont Dieu considère les créatures qu'il a faites? Il a formé l'esprit humain. Nous n'avons pas une seule pensée noble qui ne vienne de lui. Il connaît tout le mystérieux mécanisme de l'esprit humain, car lui-même l'a conçu. Dieu constate que le péché a ravalé, dégradé l'homme, mais il le considère avec pitié et compassion, car il voit que Satan le tient sous sa coupe. Une source de paix et de joie, on a fait à croire que la religion est préjudiciable à la santé. C'est là une erreur qu'il ne faut pas cultiver. La vraie religion procure la paix, la joie et le contentement. La piété est profitable pour la vie présente et pour la vie à venir. S'asseoir aux pieds de Jésus, le Christ doit être associé à toutes nos pensées, à tous nos sentiments, à toutes nos affections. Son influence doit se faire sentir jusque dans les moindres détails du service quotidien que nous accomplissons dans l'œuvre qu'il nous a confiée. Lorsque, au lieu de nous appuyer sur la compréhension humaine ou de nous conformer aux maximes du monde, nous nous asseyons aux pieds de Jésus, buvant avec empressement ses paroles, apprenant de lui et disant, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Notre indépendance naturelle, notre confiance en nous-mêmes, notre entêtement céderont le pas à un esprit candide, humble et docile. Quand nous avons une relation normale avec Dieu, nous reconnaissons l'autorité du Christ qui nous dirige et son droit à exiger de nous une obéissance sans réserve. Intégrer la vraie piété à la philosophie, il, Dieu, ne nous a pas donné une lumière supplémentaire qui se substituerait à sa parole. Cette lumière sème la confusion dans les esprits à l'égard de sa parole qui, si elle est absorbée et assimilée, est pour l'âme comme la vie du sang. Alors, on verra de bonnes œuvres briller comme la lumière dans les ténèbres. Si, alors que vous étudiez la science de la philosophie mentale, vous aviez étudié avec sérieux celle de la vraie piété, votre expérience chrétienne aurait été très différente de ce qu'elle est. Pourquoi vous êtes-vous détourné des ruisseaux limpides du Liban pour boire les eaux fangeuses de la plaine, les tromperies des inventions humaines? Le cœur a besoin d'une puissance qui ne se trouve que dans la parole de Dieu. Cette puissance est le pain de vie. Si quelqu'un en mange, il vivra éternellement. Il ne doit pas se contenter de goûter occasionnellement du pain qui descend du ciel. Il doit vivre des paroles qui sont esprit, et vie pour celui qui les reçoit. Le fait de se saisir avec ferveur de la vérité, de s'approprier personnellement les paroles du Christ, opère une transformation du caractère. Le Saint-Esprit remplit le vide, Il nous faut sans cesse remplir notre esprit du Christ et le vider de l'égoïsme et du péché. Aussi sûrement que vous videz votre esprit de l'orgueil et de la frivolité, le vide sera comblé parce que Dieu est tout prêt à vous accorder, son Saint-Esprit. Alors, le bon trésor de votre cœur produira de bonnes choses, de riches pensées comme des perles dont les autres pourront s'inspirer. Vos pensées et vos affections s'appuieront sur le Christ, et vous réfléchirez sur les autres la lumière du soleil de justice qui a brillé sur vous. Des principes applicables en toutes circonstances, le Seigneur a fait entendre sa voix dans sa sainte parole. Ces pages sacrées sont pleines d'enseignements et de vie qui sont en accord avec la vérité. Ces enseignements constituent une règle parfaite de conduite. Les préceptes donnés, les principes énoncés s'appliquent à toutes les circonstances de la vie, même si certains cas particuliers ne sont pas mentionnés. Rien de ce qui est essentiel à un traité complet de foi et concernant une ligne de conduite n'est passé sous silence. Tout devoir que Dieu exige de nous est clairement énoncé. Si quelqu'un perd la vie éternelle, ce sera parce qu'il aura été suffisant, présomptueux, bouffi d'orgueil, et qu'il ne se sera pas appuyé uniquement sur les mérites du sang de Jésus-Christ pour son salut. Parmi ceux qui, avec humilité et sincérité, prennent la Bible comme guide, comme conseiller, nul ne s'égarera loin du droit sentier. Un principe agissant, la vérité est un principe actif, agissant, qui façonne le cœur et la vie, de manière à leur imprimer un mouvement ascendant. À chaque pas de la montée, la volonté acquiert un nouveau motif d'action. La tonalité morale devient plus conforme à l'esprit et au caractère du Christ. Le chrétien en progrès bénéficie d'une grâce et d'un amour qui surpassent toute connaissance, car la vision divine du caractère du Christ exerce une profonde influence sur ses affections. La gloire de Dieu qui se manifeste au sommet de l'échelle ne saurait être appréciée que par celui qui la gravit peu à peu, qui est toujours attiré vers le haut, vers des idéaux plus nobles que le Christ lui révèle. Toutes les facultés de l'esprit et du corps doivent être mises en œuvre. Une atmosphère de paix et d'amour, le ciel prend note de celui qui dégage une atmosphère de paix et d'amour. Celui-là recevra sa récompense. Il sera debout au grand jour du Seigneur. Ne pas se fier uniquement au conseil humain, bien que l'éducation, la formation et le conseil de personnes d'expérience aient tous leur importance, il faut enseigner aux employés qu'ils ne doivent pas se fier uniquement au jugement d'un homme quel qu'il soit. En notre qualité d'agent de Dieu doué du libre arbitre, nous devons tous solliciter la sagesse qui vient de lui. Quand celui qui est dans la position d'un élève dépend totalement de la pensée d'un autre et se contente de souscrire à ses idées, il ne voit qu'à travers les yeux de cet homme-là et n'est, en ce sens, qu'un écho de l'autre. Dieu traite les humains comme des êtres responsables. Il agira par son esprit à travers l'esprit qu'il a formé en l'homme, si du moins celui-ci le lui permet et s'il reconnaît son action. Le Seigneur veut que chacun utilise son esprit et sa conscience pour lui-même. Il n'est pas conforme à ses plans qu'un homme devienne l'ombre d'un autre homme, qui se ferait en somme l'écho de ce dernier. La culture mentale supérieure, si elle est sanctifiée par l'amour et la crainte de Dieu, la culture mentale poussée au plus haut degré est pleinement approuvée par lui. Les hommes de condition modeste qui furent choisis par le Christ vécurent 3 ans avec lui, au cours desquels ils bénéficièrent de l'influence purifiante, de la majesté du ciel. Jésus-Christ fut le plus grand éducateur que le monde ait jamais connu. L'Esprit, la source de toute action, il, le Seigneur, a préparé cette habitation vivante pour l'Esprit. Elle est merveilleusement construite, un temple que le Seigneur lui-même a préparé pour que son Saint-Esprit y habite. L'Esprit régit l'homme tout entier. Qu'il soit bon ou mauvais, tous nos actes ont leur source dans l'Esprit. C'est l'Esprit qui adore Dieu et nous associe aux choses célestes. Toutefois, nombreux sont ceux qui passent toute leur vie sans devenir pour autant intelligents concernant les craintes. Qui renferme ce trésor? Capable du meilleur comme du pire, ennobli, purifié et orienté vers le ciel, l'intelligence est la puissance universelle capable d'édifier le royaume de Dieu. L'intelligence pervertie a une influence diamétralement opposée. C'est la corruption des capacités humaines qui devrait être développée en œuvrant avec zèle pour le bien. Une telle intelligence déçoit et détruit. Dieu a pourvu les hommes de suffisamment de dons pour qu'ils aient la capacité et la sagesse d'aller de l'avant, et qu'ils représentent avec force et bonté les œuvres admirables du Seigneur en faveur de tous ceux qui l'aiment et obéissent à ses commandements. Il voudrait que l'homme obéisse aux commandements de Dieu parce que ceux-ci ont pour objet la santé et la vie de tous les humains. Les talents qui nous ont été confiés sont une responsabilité sacrée. Nul ne saurait convoiter des talents, à moins que, par une prière ardente en vue d'obtenir la sagesse d'en haut qui assurera le bon usage des capacités que Dieu donne, il décide d'honorer et de glorifier le Seigneur avec celles qui lui ont été accordées. Recevoir la lumière sacrée que Dieu a donnée, y souscrire et la communiquer à ceux qui sont dans les ténèbres de l'erreur est chose merveilleuse. Cette lumière, dispensée généreusement et avec enthousiasme pour venir en aide à autrui, pour bénir et sauver des âmes qui périssent, permet à l'ouvrier fidèle d'acquérir ainsi un trésor céleste qui fait de lui plus qu'un millionnaire. C'est un héritier de Dieu, un co-héritier de Jésus-Christ, ce qui produit pour lui au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. L'homme créé en vue d'objectifs élevés, ce n'est pas une affectation de supériorité qui fait l'homme, mais une véritable élévation de l'esprit. La culture convenable des capacités mentales forme tout ce qu'est l'homme. Ses facultés ennoblissantes ont pour objet de forger un caractère pour la vie future et immortelle. L'homme fut créé en vue d'un bonheur plus élevé, plus saint que celui que le monde présent peut procurer. Il fut fait à l'image de Dieu pour des objectifs élevés, nobles, propres à attirer l'attention des anges. Changer le cours des pensées, les esprits de beaucoup se situent à un niveau si bas que Dieu ne peut agir ni pour eux ni avec eux. Le cours des pensées doit être changé et le sens moral doit être élevé pour comprendre les idéaux divins. La somme et la substance de la vraie religion consiste à avoir sans cesse conscience, par nos paroles, notre vêtement et notre attitude, de notre relation avec Dieu. L'humilité devrait se substituer à l'orgueil, la pondération au manque de sérieux, la piété à l'irréligion et à l'indifférence. L'esprit pousse au service. J'ai vu qu'au cours de l'été dernier, on visait à s'imprégner le plus possible de l'esprit du monde. Les commandements de Dieu n'ont pas été observés. C'est avec l'esprit que nous sommes au service de la loi de Dieu, mais les esprits de beaucoup servaient bien plutôt le monde. Et tandis que leurs esprits étaient tout occupés avec les choses de la terre et qu'ils se servaient eux-mêmes, ils ne pouvaient être au service de la loi de Dieu. Un service acceptable, nombreux sont ceux qui ont le sentiment que leurs défauts de caractère les mettent dans l'impossibilité d'atteindre l'idéal que le Christ a érigé. Mais tout ce que de telles personnes doivent faire, c'est de s'humilier sous la toute-puissante main de Dieu. Le Christ ne mesure pas l'homme d'après la quantité d'œuvres qu'il accomplit, mais d'après l'esprit dans lequel il accomplit ses œuvres. Quand il, Jésus-Christ, voit les humains soulever leurs fardeaux, essayer de les porter dans un esprit d'humilité, en se défiant d'eux-mêmes et en s'appuyant sur lui, il joint à leurs efforts sa perfection et sa suffisance, et le Père les agrée. Nous sommes acceptés dans le bien-aimé. Les défauts du pécheur sont couverts par la perfection, et par la plénitude du Seigneur notre justice. Ceux qui, avec une volonté sincère, avec des cœurs contrits, déploient d'humbles efforts pour vivre en conformité avec les exigences divines sont considérés par le Père avec un amour tendre et miséricordieux. Il les regarde comme des enfants obéissants, et la justice du Christ leur est imputée. La connaissance de Jésus fortifie l'esprit, le Sauveur est la source de la vie. Ce dont beaucoup ont besoin, c'est de le connaître plus intimement. Patiemment, avec douceur mais avec conviction, il faut leur apprendre comment ils peuvent soumettre tout leur être aux influences guérissantes du ciel. Lorsque le soleil de l'amour de Dieu dissipe les ténèbres de l'âme, la lassitude et le mécontentement disparaissent. Une joie réconfortante apporte la vigueur à l'esprit, et l'énergie salutaire au corps. Pouvoir tout par celui qui nous fortifie, la toute-puissance du Saint-Esprit est le refuge de toute âme repentante. Le Christ ne permettra pas qu'une seule âme, implorant sa protection dans un esprit de repentance et de foi, tombe au pouvoir de l'ennemi. Le Sauveur se tient à ses côtés lorsqu'elle est tentée et éprouvée. Avec lui, il ne peut y avoir ni échec, ni perte, ni impossibilité, ni défaite. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie.